Je m'appelle Caroline Darian et je vis les dernières secondes d'une vie normale. J'entends encore la voix chevrotante de maman. Elle me demande si je suis arrivée chez moi et si je suis bien avec Paul. Elle insiste. Elle s'assure que je suis assise et au calme pour entendre ce qu'elle a à m'annoncer. Caro, ton père est en garde à vue depuis ce matin et il ne pourra pas ressortir. Il va être incarcéré. Je tremble, je ne saisis pas bien ce qu'elle est en train de me dire. Ton père me droguait avec des somnifères et des anxiolytiques. Mais maman, c'est quoi cette histoire? Ce n'est pas tout. Ton père conviait aussi des hommes à la maison lorsque j'étais inconsciente dans notre chambre. J'ai vu plusieurs clichés de moi, endormie, allongée sur le ventre et sur mon lit, avec des hommes différents à chaque fois, tous des inconnus. Je dévisse, je crie, j'insulte mon père. Je vais tout casser. Caro, c'est la vérité. J'ai dû voir plusieurs photos au commissariat, j'ai cru que mon cœur allait s'arrêter de battre. Le lieutenant m'a bien précisé qu'il existe aussi de nombreuses vidéos de mes agressions. Il a voulu que j'en regarde une, mais je lui ai dit que les photos étaient déjà suffisamment insoutenables. Il m'a dit « Pardon, madame, mais ce qu'a fait votre mari est monstrueux. » Elles font en larmes. Paul m'étreint. Les images se télescopent, abjectes, insensées. Maman sur son lit avec un homme de passage, les yeux clos, inerte. Je te revois au volant de ta Renault 25 noire, surchargée, lorsque nous partions en vacances. Tu faisais des blagues, mettais du Barry White et battais la mesure de ta tête, reprenant le refrain, aussi excité que nous, les enfants, entassés à l'arrière. Cette image heureuse vient de voler en éclats. Désormais, tu es l'organisateur d'orgies, doublé d'un terrible menteur. Maman me raconte votre dernier petit déjeuner, absolument normal. Faut-il en avoir, des réserves de duplicité ? Pour avoir joué la comédie de la tranquillité durant toutes ces années. Maman raccroche. Elle doit maintenant appeler Thomas, mon frère aîné, puis Julien, notre petit frère. Je m'effondre. Blottie contre mon mari, je suis accablée. Je respire mal. Mon père a drogué ma mère avant de la faire violer par des inconnus. Cette phrase est lunaire. Si violente que je n'en perçois que les reflets, comme une pierre tranchante, des fragments qui éraflent ma conscience, sans prendre la pleine mesure de sa destruction. Et si une overdose avait tué maman? Si elle ne s'était pas réveillée? L'horreur dure depuis qu'ils sont partis vivre dans le Vaucluse, il y a presque 8 ans, lorsque maman a pris sa retraite. Moi, je n'ai rien vu, rien compris. Elle non plus. Aucune trace, pas la moindre réminiscence. Tout a été gommé par la fréquence des minutieux dosages de médicaments que lui administrait mon père. Je repense à nos conversations téléphoniques lorsque maman était dans le brouillard ou paraissait divaguer. Ses absences nous avaient inquiétés. Nous, ses 3 enfants, vivons à plus de 700 kilomètres d'elle. Nous avions même envisagé un début d'Alzheimer. Mon père minimisait. Il disait « Votre mère ne sait pas s'économiser. Elle est tout le temps en mouvement. C'est une hyperactive. » C'est sa façon à elle de gérer son stress. En 2017, nous avions poussé maman à prendre rendez-vous chez un neurologue qu'elle est allée consulter à Carpentras. Ce premier spécialiste avait parlé d'un ictus amnésique qui s'apparente à une sorte de trou noir, une perte de mémoire sans séquelles. Nous ignorions, et c'est bien connu des spécialistes en neurologie, qu'on ne fait jamais plusieurs ictus cérébraux. À l'automne 2018, mon oncle, médecin généraliste à la retraite, a évoqué un mécanisme de décompensation. Comme lorsque le sac d'un aspirateur est plein, la machine s'arrête pour ne pas griller. C'est comme ça que tu déconnectes et recharges tes batteries, lui avait-il dit. Nous avons tous cru à cette hypothèse. Maman avait tout de même fait un scanner, évidemment sans résultat. Comment aurions-nous pensé à une analyse toxicologique? Mais avec le temps et la multiplication de ses absences, maman était toujours inquiète. Elle faisait des insomnies à répétition, perdait ses cheveux, maigrissait, plus de 10 kilos en moins de 8 ans. Elle craignait à tout moment de faire un AVC et s'angoissait lorsqu'elle gardait ses petits-enfants ou prenait le train pour venir me voir en région parisienne. Pour cette raison, maman a progressivement cessé de conduire. Elle a perdu de plus en plus d'autonomie. En 2019, maman est retournée voir un autre neurologue à Cavaillon, qui a mis ça sur le compte d'un terrain anxieux. Il lui a prescrit de la mélatonine pour améliorer la qualité du sommeil. Je dois partir la rejoindre. Je ne peux pas la laisser là-bas, seule dans le Vaucluse, dans cette maison qui fut le théâtre de tant d'atrocités. Paul organise tout. J'ai besoin de sortir, d'appeler mes frères. Quand Thomas décroche, je comprends à sa voix qu'il ignore encore tout. J'ai malgré moi devancé maman. Je m'en veux. Je décide d'aller droit au but. Thomas reste silencieux. Il lui faut 10 bonnes secondes pour intégrer mes propos et réussir à formuler quelque chose d'audible. Mais ce n'est pas possible, Caro, tu plaisantes. Il me questionne, mais je n'ai pas toutes les réponses. J'aimerais l'apaiser un peu. Je le sens se raidir. Il raccroche pour appeler aussitôt maman. Lorsque j'arrive enfin à joindre Julien, notre cadet, il a déjà eu ma mère en ligne. Il est abasourdi. Comment a-t-il pu faire une chose pareille à maman et nous? Il a pensé à nous? Je pleure comme une enfant. Julien me dit toute sa rancœur et sa haine lorsqu'il repense à l'été 2018. Il me parle de l'épisode de leur dernier dîner, le soir de son départ, après avoir passé plusieurs jours chez mes parents avec ses deux filles. Lui et sa femme avaient été les témoins d'une scène inquiétante. Quelques minutes seulement après s'être mise à table, maman a décroché, son coude a lâché. Elle a chancelé sur sa chaise comme si elle était saoule. Soudain, son corps s'est vidé d'énergie, telle une poupée de chiffon. Je ne trouve toujours pas les mots pour décrire le relâchement de tous ses membres, Caro. On lui parlait, mais elle était comme sous hypnose, immobile et molle, le regard vide. Elle ne répondait plus. Mon père avait décidé d'aller la coucher. C'est préférable, ça lui arrive de temps en temps quand elle décompense à cause d'un trop-plein d'activité. En réalité, le cocktail de médicaments qu'il lui avait administré depuis l'arrière-cuisine dans son verre de rosé à l'apéritif commençait à faire son effet. Ce soir-là, mon père avait fait porter la responsabilité de ce malaise sur les épaules de Julien et de sa famille, qui avait fini par reprendre la route. Je raccroche. J'ai besoin de faire 2 fois le tour du quartier. Il ne fait même pas 5 degrés ce soir, pourtant la colère me brûle. Paul me suit. Il décide de convaincre mes frères de partir avec moi le lendemain matin par le premier train. Il les réconforte comme il peut avec ses mots. « La vie est bien plus forte, vous devez être tous les 3 autour de votre mère et le plus vite possible. » Il insiste, il faut faire bloc autour d'elle, vous ne pouvez pas traverser cette épreuve chacun de votre côté. Il prévient aussi, vous allez devoir être courageux et unis, car tout ça ne fait que commencer, on ne sait pas encore tout. Je préviens ma direction et je pose quelques jours de congé. Il est temps d'aller nous coucher. J'ai besoin de nous 3. Je finis par m'endormir, la main de mon fils imbriquée dans la mienne. Mardi 3 novembre 2020. Au réveil, j'ai mal partout. Une douleur me vrille le milieu du dos. Et des courbatures, beaucoup, comme si j'étais montée sur un ring toute la nuit. Je prépare tant bien que mal mon sac avec le strict nécessaire. Je ne sais pas vraiment pour combien de jours je pars. Au moment de déposer Tom à l'école, je lui répète pour la 3e fois que je dois aller chez sa mamie Nou dans le sud pour la ramener ensuite à la maison. Devant le portail, je le prends dans mes bras, le respire. Je savoure son cou si fin, ses petites oreilles, ses cheveux ondulés, son nez, et puis ses joues toujours chaudes contre les miennes. J'ai besoin d'emporter un peu de lui avec moi, comme une pépite, un porte-bonheur que l'on cache secrètement. Tom me regarde. Il finit par poser ses 2 mains de chaque côté de mon visage, plonge son regard dans le mien et me dit « Maman, tu sais à quel point je t'aime. Dis bien à Mamie Nou que je l'aime aussi. » Cette phrase et sa façon bien à lui de me caresser les joues se gravent dans ma mémoire. Ironie du sort, il n'a même pas mentionné son grand-père. Sur le trajet qui me mène à la gare TGV, je décide de contacter le lieutenant de police. Je me présente, il ne paraît pas surpris. Je lui explique que nous souhaitons, mes frères et moi, nous entretenir avec lui dès notre arrivée en gare d'Avignon. Il n'a pas beaucoup de temps à nous accorder, à cause du délai légal de la procédure en cours à l'encontre de notre père. Il leur faut aller vite pour clôturer le dossier, dans les 48 heures depuis sa dernière mise en garde à vue, avant qu'il ne soit déféré au pôle criminel du tribunal judiciaire d'Avignon. Ils doivent encore retourner au domicile de mes parents pour y trouver des preuves de la soumission chimique exercée sur ma mère.